France Culture.
France Culture, grand reportage, Véronique Rebérotte.
La femme, elle est mise en scène comme étant un objet de désir. Et changer cette image de la femme au cinéma, ça pourrait aussi changer les rapports entre les hommes et les femmes au sein d'un tournage, quoi.
J'ai constaté que ce poste de référent harcèlement était souvent pris un peu à la légère, voire à la rigolade sur les plateaux.
Très honnêtement, il y a eu un tournant dans le sens où, que ce soit de manière volontaire, militante, engagée ou contrainte, la profession, elle ne peut plus faire comme si elle n'était pas au courant de ces situations-là. Et elle est très responsable et très engagée dans les réponses qui sont apportées.
Il y a le second assistant qui, sur un tournage, répond à la script qui lui demande une information technique. Je te donne le nombre de gigas si tu me suces. Le scénariste César Rizé qui propose des conseils à une étudiante de la Fémis en échange d'une fellation. Le réalisateur qui lance à la cantonade que tout le monde veut toucher le beau cul de telle actrice. Le chef opérateur qui viole la jeune technicienne qui l'héberge lors d'un tournage. Le comédien qui soulève le haut d'une maquilleuse, etc., etc., etc. Voilà une toute petite partie des choses entendues par les rapporteurs de la commission d'enquête relative aux violences sexistes et sexuelles commises dans le monde de la culture. 118 heures d'échanges auprès notamment de professionnels du cinéma. Dérive, témoignage résolument accablant, dira la présidente de la commission, l'écologiste Sandrine Rousseau. Les auditions ont duré 5 mois jusqu'à la remise d'un rapport début avril. Le 9 avril 2025, précisément, soit près de 2 ans après que l'actrice Judith Godrèche a appelé de ses voeux la création de cette commission. Autre figure de ce MeToo cinéma français, Adèle Haenel, qui dès 2019 accusait le réalisateur français Christophe Ruggia d'attouchement et de violences sexuelles alors qu'elle était mineure. Grâce aux témoignages recueillis dès la formation, lors des castings, les tournages, la commission va pouvoir se faire une idée précise de ce que subissent les victimes du sexisme ambiant. Cinéma, quelle réalisation depuis MeToo, c'est un reportage de Marie-Aimée Koplert. Bonjour, avec nous dans ce studio, Joyce Dardanne. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes déléguée générale adjointe de l'ARP, la Société civile des auteurs, réalisateurs, producteurs. Merci d'être avec nous pour parler des dérives du milieu du cinéma, de ce qu'on peut, de ce qui doit être fait, de ce qui est peut-être déjà mis en place. On vous retrouvera après la diffusion du reportage. Marie-Aimée Koplert, bonsoir.
Bonsoir.
On peut parler d'un milieu qui, en tout cas jusque-là, fonctionnait selon ses propres règles, favorisant bien les violences et l'omerta.
Une profession exactement avec des conditions de travail très spécifiques qui favorisent ces violences sexistes, sexuelles et le harcèlement moral. Je vais en citer 3 principalement. Déjà la place du nomadisme, c'est-à-dire le fait de partir en déplacement plusieurs semaines, plusieurs mois sur un lieu de tournage, loin de chez soi en France, mais aussi à l'étranger, coincé dans une bulle 24 heures sur 24 avec toute une équipe de tournage, dormant dans le même hôtel. La frontière entre le travail et la vie privée n'existe plus. Cela favorise les agressions, car les potentielles victimes sont aussi loin de leur famille et amis, isolées et forcément plus fragiles. Autre caractéristique du monde du cinéma, la surreprésentation des fêtes avec de l'alcool et de la drogue. À l'occasion des fins de tournage, des projections de films ou lors de festivals, de nombreuses victimes ont indiqué à la commission avoir été agressées à l'occasion de ces événements. Et puis dernière spécificité au monde du cinéma, la hiérarchie extrêmement rigide. Sur un plateau, par exemple, la fabrication d'un film suppose un découpage de l'équipe en différentes branches pour plus d'efficacité notamment. À l'intérieur de chacune de ces branches, il y a les chefs de poste, les cadres et puis les autres, ceux qui sont tout en bas de la chaîne, notamment les figurants. Ils ont été cités de nombreuses fois comme étant victimes de violences.
Marie-Aimée, on va écouter votre reportage qui débute par un tournage de non-mixité choisie.
Ok, alors, est-ce que tout le monde est en place? Ok, alors, ça tourne à l'image. Musique demandée. On y va. Action. Moins vite, moins vite, moins vite. Moins vite pour Raphaël, s'il te plaît.
Donc ici, je suis au port de Saint-Nazaire, devant la mer, et Cassandre Ostier réalise à quelques mètres de la plage un clip avec 4 personnes, uniquement des femmes, puisqu'il s'agit d'un clip en non-mixité choisie, comme elle l'appelle. Et donc, on va aller voir ce qui se passe sous cette halle.
Ok, on pousse.
Ok.
Merci, déjà. En fait, peu importe le moment dans la musique, attends d'être bien au centre. C'est assez sport aussi pour vous qui allez faire le poussage de chariot. Parce que du coup, il va pas falloir que je vous voie. Donc on va, c'est un peu ça qu'on va mettre en place dans un premier temps pour savoir dans quelle position vous êtes le plus confortable pour pas qu'on vous voie à la caméra, mais que vous soyez assez en force pour pas vous faire mal au dos pour pousser le chariot, etc. On va éviter de se faire mal.
Comment ça se passe les tournages en non-mixité choisie? Est-ce que vous voyez la différence avec des tournages où il peut y avoir par exemple des hommes?
La différence elle est flagrante. Mais ce que ça change de sûr, c'est qu'en fait, bah, entre guillemets, on élimine la cause sexiste. Enfin, de toutes les remarques sexistes qu'on va avoir, misogynes, qui en fait n'adviennent plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres formes de complexité, qu'il n'y a pas d'autres problèmes. Je pense qu'un plateau de tournage de cinéma, c'est se dire qu'on va avoir des problèmes sur l'organisation, sur la communication, parce qu'en fait, on est plusieurs à se mettre en route pour créer quelque chose, et du coup, forcément, ça vient créer des tensions, des complexités, etc. Mais on n'est plus en train de justifier notre présence. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti très fort, c'est que je n'ai plus à justifier pourquoi je suis là, je n'ai plus à me battre juste pour faire mon travail, parce qu'on parle de ça, en fait. Quand on parle de violences sexistes ou de remarques misogynes, enfin, peu importe ce qu'on traverse, etc., c'est qu'en fait, on vient nous entraver dans notre compétence, dans notre travail, dans ce pourquoi on est là et ce qu'on a profondément envie de faire. Je pense que le travail dans le cinéma, c'est un privilège énorme et c'est ce qu'on peut appeler un métier passion. Et en fait, c'est hyper puissant comme sensation de faire un film. Et quand on vient être entravé à ce point par de la misogynie basse et crasse, bah en fait, quand on la retire, on a un peu plus que le plaisir.
Qu'est-ce que vous avez pu vivre comme sexisme ou comme violence?
Moi, à titre personnel, ce que j'ai pu vivre sur des plateaux de tournage, c'est vraiment de l'entrave un peu naze de bah quand je suis en régie, je peux pas vraiment faire ça parce que je suis pas assez forte. Bah attends, t'es une femme, tu vas pas porter les grosses caisses, mais en fait, je suis là pour ça, c'est mon métier.
Ça, vous l'avez entendu?
Ah oui, tout le temps. Enfin, ça, c'est, pour le coup, c'est une remarque systématique. C'est-à-dire que je suis engagée comme régisseuse, donc je suis là pour clairement bouger du matériel. Donc on parle quand même de caisses lourdes ou de matériel lourd. Et on va me dire genre, non, mais laisse, tu vas pas faire ça, quoi.
Qu'est-ce qui vous le dit? Des hommes régisseurs, par exemple?
Des hommes tout court, peu importe leur poste. Ou si je suis sur un poste, par exemple, assistante réalisatrice, donc je suis la seconde du réalisateur, en l'occurrence, donc c'est à moi qu'on vient s'adresser, parce que le réalisateur doit se concentrer sur son travail artistique, on ne va pas s'adresser à moi, alors que c'est moi qui ai les informations. Dès qu'on est, surtout à la technique, sur un plateau de cinéma, en tant que femme, on ne nous écoute pas. Je pense que c'est des représentations qu'on peut avoir, que les postes techniques, on les attribue aux hommes. Les hommes vont faire la technique, là où les personnes femmes vont s'occuper du maquillage, de la coiffure, du costume, parce que ça fait partie des rôles genrés. J'ai pas d'explication universelle ou quoi, mais ça fait partie des représentations stéréotypées de genre qui créent ça.
Le tournage en non-mixité choisie, ce serait aussi... Est-ce qu'on pourrait dire que ça peut être une solution d'urgence?
Moi, je pense que c'est un outil de réparation, ça c'est sûr. Moi, je sais que maintenant, je dis... J'ai la force de retourner en mixité, tout court. En fait, c'est venu tellement me donner confiance, me prouver que je pouvais le faire et que je pouvais le faire bien, dans le calme, dans le respect, dans la bienveillance, que je suis fière de l'équipe, que je suis fière du film qu'on a fait ensemble, etc. Et je crois que pendant très longtemps, consciemment, inconsciemment, je me disais que le cinéma, c'était pas pour moi. Mais ça peut pas tout réparer. Je pense que c'est pas une fin en soi non plus. Si on dit que la mixité choisie, c'est une fin en soi, et c'est-à-dire que les femmes ou les minorités de genre, ou en tout cas des personnes qui subissent des discriminations, ne travaillent ou ne se rencontrent qu'entre elles, qu'entre personnes concernées, ce qu'on va appeler les personnes concernées par ces discriminations, bah comment on fait société, en fait? Et je pense que c'est quand même la plus grande question. Donc, moi, j'ai tendance à dire, bah oui, c'est pas une fin en soi, parce que c'est... Moi, j'arrive pas non plus à me projeter dans un monde où je ne vais vivre et travailler qu'avec des personnes qui subissent les mêmes discriminations que moi. C'est aussi me ramener qu'à mes discriminations, alors que je suis aussi plein d'autres choses. Mais moi, à mon échelle, ce que j'en attends, c'est qu'en fait, que les gens ne tombent plus de leur chaise quand on parle de ces choses-là.
Pour Cassandre Ostier et ceux qui s'engagent vers ce cinéma non mixte, la question du financement reste cruciale. Où trouver des producteurs pour les accompagner ? À Paris, une seule productrice a franchi le pas, Héloïse Dridi, 27 ans, franco-tunisienne. Après avoir terminé son école de cinéma en 2019, elle commence dans une boîte de production indépendante, spécialisée dans les films d'auteur. Mais elle constate une sous-représentation des femmes, des personnes handicapées, des personnes noires et des personnes homosexuelles à l'écran. Héloïse Dridi décide alors de fonder sa propre boîte de production, Le Sucre, en 2021.
Alors j'ai voulu mettre en avant une communauté dite minorisée dans nos industries, que ce soit le cinéma, mais aussi la musique. De travailler en non-mixité choisie, c'était d'abord et avant tout reconstruire une safe place, un espace de travail bienveillant. La non-mixité choisie, je l'ai aussi mise en avant pour reverser l'argent aux personnes qui étaient moins embauchées. Donc vraiment avoir une équité en termes d'embauche comparé à, au constat que je fais des autres industries et des autres entreprises.
Et donc c'est par exemple les femmes, les personnes racisées, les personnes queer sont moins embauchées.
Oui, forcément. En fait, de toute façon, si on part d'abord du premier constat en termes de parité, il y a moins de femmes dans l'industrie. Et ensuite, si on prend toutes les autres discriminations qui existent, il y a moins de femmes racisées, moins de femmes queer, moins de femmes en situation de handicap. Enfin, il y a toutes les autres discriminations qui ne sont pas forcément encore, je trouve, assez travaillées dans l'égalité que nous voulons dans nos industries. Aujourd'hui, les gens sont très fixés sur la parité, mais la parité ne suffit pas. Il y a toutes les autres discriminations à prendre en compte.
À première vue, on pourrait se dire en France, le cinéma d'auteur, c'est justement un cinéma qui sort un peu de l'industrie très productiviste, où il faut faire beaucoup d'argent, qui permet d'explorer de nouveaux thèmes, peut-être des thèmes où on voit des personnes plus, moins mises en avant, etc. Et alors qu'en fait, pas forcément. Qu'est-ce qui vous gênait ?
Moi, personnellement, je trouve que dans le cinéma d'auteur, qui parle souvent de sujets sociaux, de mettre en avant des personnes dites minorisées dans leurs films, souvent ce sont des personnes blanches et bourgeoises qui réalisent ces films-là, donc je les trouve pas hyper légitimes. Et du coup, je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie, un peu le bon vouloir, bien pensant, on veut parler des gens précaires, mais sans comprendre et sans même l'avoir vécu. Donc j'ai un peu des limites avec ça. Et franchement, si je pousse jusqu'au bout, quand je regarde des plateformes hyper mainstream telles que Disney ou Netflix qui font bien évidemment du cinéma dit capitaliste, c'est des plateformes qui, par contre, en termes de réglementation sur les tournages, sont hyper vigilants. En termes de représentation, ils fonctionnent pas du tout comme nous. Nous, en France, on n'a pas le système de quotas. Aux États-Unis, par exemple, il y a un système de quotas. Donc, en termes de représentation, que ce soit les personnes racisées, les personnes queer, les personnes en situation de handicap, elles sont beaucoup plus représentées. Donc, moi, c'est vrai que même moi, avec ma boîte de production, je vise un cinéma beaucoup plus dit capitaliste, mainstream, avec énormément de budget, mais aussi pour montrer qu'il n'y a pas que les hommes blancs cis-hétéros qui font des films à gros budget, que les personnes queer, racisées, peuvent aussi faire des films à aussi gros budget, parce que souvent les femmes, elles font par exemple du documentaire avec des petits budgets, mais parce qu'on leur octroie que cela. Et c'est vrai que moi je vise plus, limite, ce type de plateforme, mais qui nous accueille bien mieux que le cinéma d'auteur français.
Le fait d'avoir créé Le Sucre, votre boîte de production, en 2021, donc après MeToo, est-ce que vous pensez que ça a été plus facile justement parce qu'il y avait eu MeToo qui était passé par là ?
Je pense que forcément MeToo nous a permis à nous, les sociétés de prod en mixité choisie, mais aussi tous les organismes féministes et antiracistes, de mieux lutter et de mieux faire valoir nos valeurs et nos voix. Donc ça nous a aidés, mais je pense que je fais aussi partie d'une génération où dans tous les cas ça serait allé de soi dans l'évolution de la société.
Même sans MeToo ?
Même sans MeToo, oui, je pense qu'à un moment donné, on aurait, il y aurait eu autre chose. En fait, il y a un moment donné où c'était un trop-plein. Je trouve que de mon point de vue, c'est arrivé un peu tard. Mais c'est comme ça et il faut continuer. En tout cas, il ne faut pas perdre espoir. Moi, je suis quelqu'un d'hyper positive et je sais que j'aime bien travailler encore avec des hommes sur d'autres projets. Mais je pense que c'est nécessaire. Il ne faut pas le juger. Et je demande souvent aux hommes qui sont alliés à nos causes de comprendre. Enfin, en fait, c'est même pas de nous comprendre, c'est juste de laisser faire. Parce que faut prendre en note que ça sert.
possible.
Allez, trop bien. Bon, voilà. Faites-moi confiance, ça va être bizarre. Levez-vous, s'il vous plaît.
Créer, inventer, innover dans le monde du cinéma pour répondre aux manques et aux souffrances, comme Héloïse Dridi et Cassandre Ostier, Mathilda Gesson, technicienne du cinéma, a cofondé l'atelier Marcel, premier atelier de formation aux violences et harcèlement sexiste et sexuel dans le cinéma.
Petite vidéo du gouvernement, soyez attentive, ça ne dure que quelques dizaines de secondes.
Donc voilà, on a finalisé le dossier et on n'a plus qu'à savoir ce que vous en pensez.
Pardon, je me suis encore perdu dans ton décolleté. À chaque fois, elle rougit, j'adore. Décolleté, je note. C'est pour le compte-rendu de réunion.
Pas mal de choses dans cette vidéo. Ouais. Cette femme a l'air de subir quelque chose ou pas?
Du harcèlement, c'est
du harcèlement. Comment
est-ce que ça a l'air d'être fréquent?
Ouais.
C'est pas.
Hein. Il dit à chaque fois que je lui dis elle rougit, ça veut dire
chaque
que
fois elle rougit, j'aime. Bon, c'est ça la vérité. Dans l'idée que nous, on assiste en tant que témoin à quoi?
Un agissement sexiste.
Exactement. Moi, j'ai évolué dans le cinéma et l'audiovisuel en tant que régisseuse à la fin. J'ai passé 12 ans sur les plateaux à avoir cette réflexion avec la cofondatrice de l'atelier Marcel et on a évolué vraiment dans un milieu qui nous posait beaucoup de questions. Un milieu qui est très sexiste, avec un plafond de verre évident pour les femmes, et ça sont toutes les études le montrent. On cherchait des solutions de formation, notamment, on cherchait l'information, et on la trouvait pas, en fait. Donc l'information obligatoire de l'employeur, on l'avait pas, on n'avait pas les cadres étaient un peu flous, et donc on a eu ce besoin de, bah, finalement, de proposer des formations qu'on aurait bien aimé avoir à l'époque, quand on a évolué dans ce domaine.
Chaque année, elle forme des dizaines de techniciens et techniciennes, acteurs et actrices, pour devenir référents VHSS, pour violences sexistes et sexuelles, rôle désormais obligatoire sur les plateaux de tournage depuis mai 2024.
On ne forme pas des psychologues en 14 heures, évidemment, sauf qu'on leur apprend à pouvoir réagir vite, pouvoir aussi détecter des situations, donc aller poser une question à une personne impossible, de savoir comment elle va si jamais on retrouve une personne un peu dans une situation compliquée et qui peut être déclencheur en fait de beaucoup de choses. Donc ces personnes positionnées sur le plateau ou dans son environnement propre vont pouvoir réagir vite et donner le relais à des services compétents, donc la cellule d'écoute audience, relayer vers l'employeur s'il y a un signalement, relayer vers des syndicats ou vers le défenseur des droits pour des discriminations. Voilà, enfin en tout cas on les entoure de plein d'outils pour pouvoir soutenir les personnes en difficulté et pour qu'elles aillent très vite vers des institutions compétentes. Ouais.
Là aujourd'hui il y avait 8 personnes, 8 femmes. Quelle est la situation aujourd'hui? Vous formez plus de femmes ou plus d'hommes?
La situation aujourd'hui, c'est qu'on forme plus de femmes, puisque cette formation et cette mission, elle est basée sur le volontariat, et que on peut voir plus de femmes volontaires, car plus sensibilisées, parce que aussi plus victimes de violences sexistes et sexuelles. Bon, les violences morales concernent à peu près tout le monde, le sexiste et sexuel concerne aussi les hommes, surtout dans ce milieu qui est quand même très sexiste. Je pense simplement que c'est un combat qui est un peu moins pris en main pour le moment par les hommes, peut-être par crainte. On a quand même des hommes qui viennent dans nos formations. On a un pourcentage actuel qui est de 24% d'hommes volontaires dans nos formations, face à 76% de femmes. Donc je pense qu'il faut de tout. Il faut des hommes, il faut des femmes, il faut des personnes plus âgées et des personnes moins âgées. Voilà, faut créer en fait un environnement. C'est comme ça en fait qu'on va réussir, je pense, à créer un environnement safe. À l'heure actuelle, on est sur des référents qui sont en double casquette, donc qui ont une mission référent en plus de leur poste habituel. Donc c'est vrai qu'il est dit dans la convention collective que comme ce référent se détache potentiellement de sa fonction habituelle, ça justifie une indemnisation de 30 euros brut par semaine.
C'est pas beaucoup, 30 euros brut.
C'est pas hyper encourageant. Je pense que les personnes qui vont faire cette mission n'y vont clairement pas pour le petit chèque de 30 euros brut semaine. Ça, c'est sûr. En revanche, ça peut être encourageant dans le sens où, bah oui, l'employeur reconnaît que il y a une mission. Ça permet de ne pas minimiser cette mission aussi, qui est pour le coup, jusqu'à aujourd'hui, un petit peu méconnue des employeurs. On y voit souvent une source de problèmes, c'est-à-dire, ah, un référent en place, bah, il va relever plus de problèmes. Donc je vais entendre parler de plus de soucis sur mon plateau. Bon, en réalité, il faut que les employeurs comprennent que C'est faux, les problèmes sont là. Et c'est justement des personnes qui vont pouvoir potentiellement signaler au plus vite des situations pour pouvoir justement les faire cesser et réagir rapidement. Donc c'est une très bonne chose que des référents soient en place. Et la question se pose d'un référent en plus en poste, que ce soit vraiment quelqu'un de neutre, quelqu'un qui puisse être embauché par la production. Bon, je pense que la logique budgétaire, pour le coup, aujourd'hui, si on impose ça en plus à un employeur, je pense que ça pourrait être contre-emploi actuellement, mais la société évolue, donc peut-être qu'un jour on verra un poste référent, pourquoi pas. Mais je trouve que c'est une très bonne chose que les référents, vu la zone géographique à couvrir, entre les départements totalement isolés comme la décoration, les costumes, le casting, qui est vraiment des personnes en double casquette, qui aient cette sensibilité-là pour accueillir au plus vite les paroles, encore une fois. Pour terminer cette journée, on ne peut pas faire autre chose que de faire une étude de cas. On va lire très rapidement une étude de cas de 8 semaines de tournage, donc un trigger warning sur cette situation, c'est un témoignage. Et on va vraiment parler de semaine par semaine, et ensuite on basculera sur les conséquences de ces violences.
Semaine 3. Au fur et à mesure que la prépa du tournage avançait, Pierre est devenu très personnel avec moi. Il me faisait des remarques sur ma tenue, il m'appelait ma belle, ma puce. Ça me mettait un peu mal à l'aise, mais je me disais que ce n'était pas méchant, qu'il voulait me complimenter, me mettre en confiance. Je pensais alors qu'il le faisait dans un cadre sécurisant, paternel. Il me disait qu'il fallait que je me méfie de mes autres collègues du bureau, qu'elles parlaient souvent dans notre dos parce qu'elles étaient jalouses de notre relation privilégiée.
Enfin, nous, de ce qu'on a lu des définitions, en tout cas, ça caractériserait, a priori, le harcèlement sexuel déjà. Parce qu'il y a l'effet que ça lui procure, ça la met un peu mal à l'aise. Bien sûr, à côté, il y a quelques excuses du « oui, mais il voulait me complimenter, me mettre en confiance, etc. » Le côté paternel qui est dit, c'est, ça se sent bien.
Il cherchait à l'isoler.
Oui, en plus, il y a
l'isolement.
L'attention, l'intentionnalité, puis il commence à l'isoler des autres.
Ok. Je pense que ça va être une fin de journée.
D'abord, j'ai une petite question, même si
vas-y.
Ça reste naïve.
Mais oui, ceux qui peuvent rester peuvent poser des questions.
Moi, du coup, là, ça fait quelques tournages où je vois que les postes de référence sont pris au sérieux. Et j'ai deux questions. Une, d'abord, est-ce que vraiment tous les postes ont le temps d'être référents? Moi, j'ai pas l'impression que les chefs de poste aient le temps, parce qu'il y a toujours le rush sur un plateau de tournage, ils sont toujours demandés. Donc moi, je vois des métiers où vraiment, ça me semble un peu impossible d'être référent. Et autre chose, il y a un truc qui s'installe un peu de vanne autour du fait d'être référent, harcèlement, qui moi me fait pas rire du tout, mais à chaque fois qu'il y a des blagues, c'est ah bah attention, je vais en parler au référent.
Oui, ça c'est hyper vrai.
C'est nul et c'est déjà périmé quoi. Et comment on répond à ça ?
À mon avis, ça va se tasser tout seul.
Ouais, j'espère aussi.
Alors, ça va se tasser, mais pour nous en tout cas, on est assez persuadés que s'il y a ce type de remarques, c'est parce que les gens sont face à de l'inconnu et de la méconnaissance de la mission. Mmh. Et donc, c'est pour ça que demain matin, on va vachement vous parler aussi de légitimer votre mission. Cette légitimité, elle pourra ne se faire que grâce à votre employeur.
Noémie, moi je suis directrice photo. Directrice photo, c'est la personne qui est en charge de toute l'image, donc de la lumière à la caméra, de la préparation jusqu'à l'étalonnage, la dernière partie de finalisation de l'image d'un film. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette formation, c'est que 2 jours. J'ai aussi constaté que ce poste de référent harcèlement était souvent pris un peu à la légère, voire à la rigolade sur les plateaux. Et notamment, j'ai un assistant qui travaille avec moi, qui a été nommé comme ça, de fait, sans qu'on lui pose la question, un peu sur le ton de la blague. Et il l'avait assez mal pris, parce que lui se rendait compte que c'était pas un truc à prendre comme ça par-dessus la jambe. Et voilà, ça m'a un peu fait réfléchir aussi. Je me suis dit que c'était important et qu'il fallait que peut-être moi j'avais envie d'endosser cette responsabilité. Ouais.
Former l'ensemble des professionnels du cinéma, soit 76 000 personnes, aujourd'hui c'est l'axe principal de lutte contre les violences. Initié par le ministère de la Culture en 2019, 3 ans après le début de MeToo aux États-Unis et une série de révélations d'agressions sexuelles en France, le ministère de la Culture veut agir. Il demande à la plus grande institution publique du cinéma, le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, de conditionner les aides financières accordées aux producteurs à la formation de l'ensemble des équipes de tournage. Leslie Thomas, la secrétaire générale du CNC.
Quand on a mis en place les formations la première année, très clairement, on a fait face à beaucoup de scepticisme, beaucoup d'ironie, voire un peu de provocation. Néanmoins, le constat qu'on fait, maintenant que ça fait 4 ans qu'on porte ces formations-là, c'est qu'il n'y a plus du tout cet état d'esprit. Au contraire, on voit arriver des producteurs qui sont déjà aguerris sur ces questions-là et qui, du coup, sont très pertinents dans les questions qu'ils vont poser aux formateurs et aux formatrices. Enfin, vraiment, il y a eu un changement d'état d'esprit pour ce qui est de la partie formation des producteurs.
Et vous sentez ça globalement que depuis 2016, il y a eu un tournant sur ces enjeux-là dans le cinéma ?
Oui. Très honnêtement, il y a eu un tournant dans le sens où, que ce soit de manière volontaire, militante, engagée ou contrainte, la profession, elle ne peut plus faire comme si elle n'était pas au courant de ces situations-là. Et elle est très responsable et très engagée dans les réponses qui sont apportées. C'est un secteur qui s'est beaucoup mobilisé, qui avait besoin de le faire. Faut pas oublier qu'on partait de loin. Mais c'est un secteur qui vraiment se mobilise dans un cadre massif. On fait pas des opérations ponctuelles et de petite envergure. Donc c'est un secteur qui est très engagé. C'est un secteur qui a pris conscience des situations inadmissibles qui pouvaient exister à l'occasion des tournages, à l'occasion des festivals, à l'occasion de la promotion des films, à l'occasion de la préparation des films. C'est donc un secteur qui a pris conscience que la situation était problématique, mais c'est un secteur aussi qui s'est beaucoup mobilisé. Et d'ailleurs, le rapport de la commission d'enquête parlementaire pointe que c'est tout à la fois une machine à broyer, mais c'est aussi un secteur professionnel qui s'est fortement mobilisé et fortement engagé. Et moi, je voudrais souligner vraiment cet aspect-là et la complémentarité entre les actions qui ont été portées par, au départ, des associations. Aujourd'hui, pas des associations, des organisations syndicales, les pouvoirs publics, les organismes de formation, les organismes mutualistes. Enfin, vraiment, il y a une convergence d'intérêts pour pouvoir essayer de faire qu'il n'y ait plus de situation de violence sexiste et sexuelle.
Le MeToo, ça a commencé par le cinéma. Quelle est la responsabilité du cinéma, en fait ?
En fait, le cinéma, c'est une vitrine de la société. On ne pourrait pas dire que le cinéma est le seul secteur d'activité où il y a des violences sexistes et sexuelles. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup d'autres domaines d'activité où il y a des situations de violences sexistes et sexuelles. Simplement, le cinéma, ça fait rêver. Le cinéma, ça crée un effet de loupe sur ces sujets-là. Et surtout, il y a aussi des prises de parole qui sont médiatiquement très relayées. Donc, c'est aussi tous ces éléments-là qui font que le cinéma est pointé et doit devenir exemplaire. Ça, c'est un élément extrêmement structurant aussi. Je rajouterais autre chose, c'est que le cinéma, peut-être, on retrouve dans le cinéma peut-être des facteurs de risque aggravants. C'est-à-dire que quand on travaille sur un film, on va parfois être isolé, pas rentrer chez soi le soir, être éloigné de sa famille. On est dans des statuts de contrat de travail qui peuvent parfois rendre certains précaires. On est coopté. C'est un secteur d'activité où le travail est obtenu par réseau. Donc parfois, ça crée les conditions pour qu'on ne parle pas, pour qu'on silencie les situations de violence sexiste et sexuelle.
Bonjour.
Bonjour.
Là, on a des salles de cours, des salles de montage.
Des facteurs de risque dans le cinéma qui aggravent les situations de violence qui commencent dès les castings et en amont, dès l'école de cinéma.
Voilà, les salles de maquillage.
À Montpellier, Laurent Mesguiche, le directeur et fondateur de l'école Travelling, fait ce constat.
Lorsqu'il y a du latex. Voilà.
Depuis 2016, donc, on a eu l'explosion du mouvement MeToo, principalement partout, mais notamment dans le cinéma. On parle donc des efforts qui sont mis en place sur les plateaux, les référents violences sexistes et sexuelles, les formations, même le CNC a demandé à ce que tout le monde soit formé pour obtenir des subventions publiques. Et dans les écoles, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites ?
Pour les étudiants, je sais que récemment on a eu une demande du CNC et on nous a demandé récemment quelles sont les mesures que vous mettez en place dans l'école. Alors déjà, cette année on a commencé. On a placé des modules avec des référents VHSS qui viennent à l'école parler un petit peu de leur travail et dire aux étudiantes et aux étudiants qu'est-ce qu'il faut faire en cas de harcèlement et puis aussi qu'est-ce que c'est que le harcèlement. Donc on a commencé cette année avec des modules. Je vous montrais la charte VHSS homme-femme qu'on va imprimer dans l'école, qui sera à plusieurs endroits dans l'école pour informer les étudiants, les apprenants aussi de notre action. On a une référente VHSS dans l'école, voilà, qui a fait une formation. Et dès qu'il y a, alors aussi, il faut savoir qu'on lit tous les scénarios de travelling, parce qu'il y a beaucoup de films qui sont écrits. Et dès qu'il y a des scènes un peu d'intimité, on met aussi un coordinateur d'intimité parmi l'équipe. Hein. On va mettre aussi un référent VHSS dans l'équipe. Alors après, l'autre problème qu'on a, c'est les stages aussi. Donc effectivement, dès que les élèves partent en stage, ben voilà, on les avertit, on leur dit voilà, s'il y a un souci, vous nous appelez, etc. etc. Voilà. Et même sur les tournages d'étudiants, il y a aussi des problèmes. Hein. On a eu des problèmes cette année. Hein. Ben, de jeunes qui ont des comportements de chez nous. Hein. Ben, comme partout, j'imagine, des attitudes qui ne sont pas forcément les bonnes. Et là, on les recadre. Il faut savoir que ce sont des étudiants, mais on s'adresse à des futurs professionnels. Et bien que les élèves soient majeurs, eh ben, oui, je ne vais pas dire vous êtes majeur, débrouillez-vous. Ah, non, pas du tout. Parce qu'effectivement, on est une école et tout événement étrange, bizarre, de type harcèlement qui a lieu au sein même de l'école, voire à l'extérieur de l'école, eh ben, on est concerné. Donc on ne peut pas dire oui, mais c'est arrivé dans un bar, oui, mais. Dans un bar, c'était une fin de tournage de film de travelling. Donc, vous voyez, c'est arrivé sur un tournage à l'extérieur. Il y a eu un problème avec quelqu'un qu'on a isolé. Moi, j'ai souvenir d'une fille qu'on avait isolée sur un tournage. Isolée dans le temps, tu touches à rien, tu te poses là, tu restes au soleil. Qu'est-ce qui s'est passé là et ça, maintenant, si vous voulez, on a toujours des retours on demande un petit peu. Il y a des retours d'expérience sur les tournages, etc. Donc, en fait, voilà, donc on est concerné et pas seulement au sein même de l'école. Voilà, on peut avoir des élèves en pleurs, qu'on ait des difficultés. Mais ça, quelle école de cinéma ne vit pas ça? Et effectivement, on met en place des choses qu'on va améliorer au fil des années et on va veiller à ce que ce soit respecté.
Je suis désormais dans les couloirs de l'école Travelling de Montpellier et les étudiants sont en train de travailler sur leur montage de films, notamment de première, deuxième année. Ils sont en train de faire l'étalonnage, l'enregistrement, le son, le mixage également. Et je vais me rendre dans l'une de ces salles pour aller interroger les étudiants.
D'accord, ça sent bandé. Qu'est-ce que tu nous as fait, là?
C'est normal que ce soit pas synchro.
Ah oui.
C'est l'écran qui...
Je sais pas, moi,
c'est bon,
bizarre.
Donc là, on est en train de faire le mixage son du 72 heures, donc du film qu'on doit écrire, tourner, monter et mixer en 3 jours et qu'il faut rendre aujourd'hui pour dans 2 heures.
Est-ce que vous avez eu des formations un peu sur ces questions de violences sexuelles et sexistes au sein de l'école ou pas?
Oui, on en a eu. Alors c'était un échange d'abord avec notre professeur de scénario-réalisation et elle nous a montré des extraits de vidéos, de témoignages, de misogynie sur les tournages. Ce qui était rassurant, c'est que tout le monde était d'accord sur le fait que telle ou telle chose n'est pas acceptable. Donc ça, c'est assez rassurant pour l'avenir. Mais malheureusement, ce qu'on observe, c'est que ça dure encore.
Moi, je sais que j'ai fait un stage et j'ai été confrontée à un personnage un peu trop... à l'aise avec moi, on va dire, et en fait, je sais que j'en ai parlé et que les échos s'est vite remonté à la production et qu'ils ont agi. Donc, c'est rassurant. Même au sein de l'école, on a eu un souci avec un camarade et ils ont pris ça au sérieux, ils nous ont écoutés, alors que ça n'aurait pas été le cas forcément il y a quelques années, quoi. Donc, c'est rassurant, mais il y a forcément encore des progrès à faire.
Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous parlez un peu entre vous ou comment ça se passe?
Oui, on en parle. Ça dépend, mais oui, des fois on en parle. Surtout quand on a de l'écho ou du droit, on peut en parler après le cours de ça.
Disons qu'on a, par exemple, sur les fiches qu'on reçoit, etc., des messages qui nous rappellent d'être courtois, d'être civilisé.
Ça devient des sujets de moins en moins tabous. Il y a eu énormément d'harcèlement, il y en a encore toujours et il y en aura encore si on fait rien. Je pense que c'est une très bonne chose. Il faut savoir se parler entre collègues. Il faut savoir s'exprimer quand on a subi des violences sexuelles ou des violences émotionnelles ou quoi que ce soit. L'objectif, c'est à la fin ne plus dire en venant sur le plateau aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va m'insulter parce que je fais du mauvais travail? Est-ce qu'on va m'insulter parce que je suis simplement une femme? Est-ce que si je viens sur le plateau avec un crop top, on va m'insulter parce que je suis un crop top? Non, je pense qu'il faut que la société évolue, faut que les mentalités changent pour aller vers ce courant-là, quoi.
Qu'est-ce que vous pouvez apporter cette génération-là au monde du cinéma?
Peut-être changer la place de la femme au cinéma, parce que c'est vrai que quand on est spectateur d'un film, on a souvent tendance à voir la femme comme un objet de désir, elle est mise en scène comme étant un objet de désir. Et changer ça, cette image de la femme au cinéma, ça pourrait aussi changer les rapports entre les hommes et les femmes au sein d'un tournage et même au-delà d'un tournage, quoi.
Silence, moteur,
ça tourne.
Action.
À la FEMIS, l'École nationale supérieure des métiers de l'image à Paris, l'une des 4 écoles publiques de cinéma en France, les cours théoriques sont repensés. Une recommandation également du rapport de la commission parlementaire sur les violences sexistes et sexuelles dans la culture. La directrice de la FEMIS, Nathalie Coste-Sardan.
De plus en plus, nos directeurs et directrices de département se saisissent de ces questions pour ne pas subir la colère des nouvelles générations à l'égard de ce qu'ont été les pratiques sur certains tournages ou certains films, mais plutôt de provoquer des discussions et d'essayer d'entamer ce dialogue pour qualifier les actes, qualifier les comportements, qualifier ce qui était ces demi-dieux de la nouvelle vague, d'essayer de faire réfléchir à ces comportements, de ce qu'ils ont certes apporté au cinéma, mais de ce qu'ils ont aussi provoqué comme effet très négatif sur des générations de jeunes actrices, sur des destins individuels. Et ça, c'est vrai que je pense, ce grand tribut qu'on peut faire à la nouvelle génération, c'est qu'ils n'acceptent plus que le génie artistique puisse tout autoriser. Après, il y a beaucoup, beaucoup de sensibilités très, très fines qui s'expriment autour de ces questions. Et il n'y a pas de vérité. Il y a précisément des débats, des dialogues, et ce qu'il faut, c'est avoir ça.
Alors, j'avais une question concernant le rapport qui a été rendu. Vous avez été interrogée. Qu'est-ce que vous pensez du rendu Est-ce que vous avez lu les 87 ou 6 propositions?
Je suis encore en train de le lire parce que c'est un document très dense. Je pense qu'en fait, à la fois, il met des mots sur les choses et il donne des clés de lecture qui sont peut-être très, très nouvelles. Ensuite, je pense que, de mon point de vue, il pourrait aussi considérer qu'il y a eu des efforts qui ont été effectués, volontarisme en matière justement de non seulement de parité, parce qu'il parle de ça, mais aussi d'accompagnement de tous les établissements pour mettre en œuvre ces politiques. Il y a quand même une volonté de marquer les opinions, de faire du cinéma un endroit effectivement dans lequel il y a énormément d'abus. Et je pense que c'est à la fois son grand avantage, parce qu'il nomme les choses, il rend compte de réalités qu'on ne voit pas nécessairement. Mais je pense aussi que c'est important pour l'avenir du secteur, l'avenir des nouvelles générations, de montrer aussi ce qui bouge favorablement. C'est-à-dire que j'aurais été l'auteur du rapport, j'aurais aussi mis en exergue des cas exemplaires de choses qui ont été faites pour aussi donner confiance. Mais est-ce qu'on a envie de croire que ça peut évoluer ou est-ce qu'on a envie au contraire de stigmatiser tout ce qui ne va pas? Donc voilà, c'est peut-être aussi une question de personnalité.
Formation, charte contre les violences sexistes et sexuelles ou encore présence obligatoire d'adultes pour encadrer les mineurs sur les plateaux de tournage. Des nouvelles règles qui, à l'origine, ont vu le jour grâce à la prise de parole des comédiennes en 2016. En France, alors que les actrices ont initié ce mouvement MeToo, elles n'avaient pas encore de collectif pour agir et pour se regrouper. C'est pour cette raison que l'ADA, l'Association des actrices, a été fondée il y a 3 ans. Léna Garel et Clémentine Poitdaz en font partie.
J'ai rejoint l'ADA parce que c'était important pour moi de militer. Et aussi, c'est vrai que je pense que c'est difficile de ne pas souffrir en fait, de tout ça aussi quand on commence à travailler dans ce milieu. Il fait souffrir. Enfin, je trouve qu'il est violent. vraiment, le fait que l'ADA existe et le fait d'en faire partie me donne envie de continuer. En fait, ça me donne envie de me battre, ça me donne de l'espoir sur le fait que justement la nouvelle génération peut vraiment essayer de travailler à faire en sorte que les choses bougent pour de vrai. Enfin voilà, justement, l'idée c'est que ça soit pas tout ça des coups d'annonce par rapport à voilà le MeToo, il y a toute cette médiatisation et tout, mais l'idée c'est qu'on change aussi la société en vrai, qu'on se dise en vrai qu'est-ce que le cinéma apporte à la société, est-ce que on crée des images de façon saine ou pas, et qu'est-ce qu'on crée comme image, qu'est-ce qu'on donne à voir de la société. Je crois qu'on a pas mal de boulot à faire tous et toutes de déconstruction, de réflexion, et c'est important quoi.
Clémentine, est-ce que vous pouvez me dire, en fait, on assiste à des choses qui sont mises en place dans le cinéma pour lutter contre ces violences sexistes, sexuelles et cet harcèlement et d'autres formes de violences. Mais à côté de ça, on a encore beaucoup de choses à changer. Qu'est-ce qu'il y a à faire encore ?
Ah là là, il y a beaucoup à faire et on n'est pas du tout sorti de l'auberge. On a tous une responsabilité. Par exemple, moi j'ai 43 ans, j'ai pas l'âge de Léna. Et j'ai grandi avec les agressions sexuelles, j'ai grandi avec la banalisation des agressions que je subissais ou que j'avais vues. J'ai banalisé ces agressions sur des plateaux sans jamais banaliser les victimes, en allant toujours les voir. Enfin, mais malgré tout, j'ai cru que ça faisait partie de mon métier. Je me sens responsable et je suis en mesure de le dire. Là, j'ai ma part de responsabilité aussi, puisque j'ai laissé faire des choses. Mais à partir du moment où on décide, enfin moi j'ai décidé d'ouvrir les yeux, mais ça devrait être, et c'est encore plus, je pense, la responsabilité d'un réalisateur, d'un producteur, de personnes qui ont le pouvoir de faire ça. Moi je travaille, je suis une comédienne qui travaille, mais je ne suis pas connue. Et on décide, c'est le cas de la plupart d'entre nous à l'ADA, on décide de prendre le problème à bras le corps. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux, ces gens de pouvoir? Ils sont où, en fait? Mais nous, ce que je veux dire, c'est que nous, on se retrouve avec un travail colossal à faire à l'ADA. On n'est pas payé. Quelque part, c'est nous que les victimes ou les plaignantes ou les personnes qui ont des choses à dire, elles viennent nous voir, nous. Mais c'est qu'il y a un grand manque aussi, il y a eu un grand manquement de la part des pouvoirs publics.
Léna, quelle est la place des hommes? Est-ce que vous pensez que les hommes doivent encore plus s'impliquer? Est-ce que déjà vous les trouvez absents, vous, dans
ça? Oui, on les attend. Enfin, vraiment, on les attend et on attend aussi... Positionnez-vous, enfin, c'est le moment, il se passe quelque chose. Montrez-nous que vous êtes là. Partagez vos questionnements. Parlez, quoi. Enfin... Je pense que pour l'instant, on se sent avant tout très seul. Et je pense qu'on en a besoin, qu'on les attend et que des actions, du soutien, de la présence en fait.
Elle demande du soutien de l'ensemble des acteurs du cinéma, mais aussi des actions politiques qui pourront voir le jour avec les 86 recommandations faites par la commission d'enquête parlementaire sur les violences dans les secteurs de la culture.
Cinéma, quelle réalisation depuis MeToo ? C'était un reportage de Marie-Aimée Koplert, réalisé par Annie Brault.
Grand reportage, Véronique Rebérotte.
Pour prolonger ce reportage, nous sommes avec Joyce Dardanne, déléguée générale adjointe de l'ARP, la société civile de l'ARP même, la société civile des auteurs, réalisateurs, producteurs. Déjà peut-être, petite question préalable, vous représentez combien de personnes dans le cinéma français ?
Je représente 220 cinéastes environ, qui sont de générations différentes. On a par exemple parmi nos membres Céline Salette, Audrey Diwan, Pierre Jolivet, Olivier Nakache ou encore Claude Lelouch. Et donc c'était ce collectif de cinéastes qui intervient de l'écriture à la fin de la fabrication du film et qui se mobilise donc forcément sur cette question qui concerne tout.
On y vient. On a quand même déjà envie de savoir si vous mesuriez avant tout ça l'ampleur de ces situations. Est-ce que vous avez pris conscience de ce qui se passait et peut-être avez-vous eu vous aussi des témoignages qui vous arrivaient ?
Bien sûr, bah, je pense que le secteur du cinéma aujourd'hui a une prise de conscience générale qui est inévitable. Elle a d'abord été militante, évidemment, de la part de personnes du secteur qui étaient engagées, puis elle s'est massivement répandue dans toutes les professions avec une verbalisation, en fait, tout simplement de ce qui était à l'œuvre.
Mais vous aviez ça à l'esprit, vous, de situation?
Oui, oui, je pense que il y a pas mal de choses qu'on a déjà à l'esprit pour avoir échangé avec énormément d'organisations professionnelles du secteur qui représentent différents métiers. C'est des choses qui sont ressorties, mais c'est évident que ce rapport de la commission d'enquête qui a fait un travail monumental, vous l'avez rappelé, permet de mettre en lumière des violences qui sont systémiques, et mais qui met aussi en lumière la prise de conscience du secteur et qui crée un momentum pour l'ensemble du secteur du cinéma pour se réformer et profiter de cette mise en lumière qui est parfois pour le pire, mais aussi pour le meilleur, pour réinventer nos pratiques et tout simplement essayer de
faire mieux.
De faire mieux, absolument.
Alors on l'a entendu dans le reportage, il y a une prise de conscience, hein, vous le dites aussi, de la profession du cinéma, mais avec parfois encore quelques réticences, notamment du côté du monde de la production, de la réalisation. Est-ce que les réalisateurs, les producteurs aujourd'hui abordent quand même ce sujet avec une attention toute particulière, avec sérieux en gros?
Ah, ils l'abordent avec beaucoup de sérieux. Quand un cast présente sur un tournage, un producteur qui est chargé de la bonne fin du film doit gérer cette situation souvent tant bien que mal. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est que le producteur ne mette plus, ou la productrice n'ait plus besoin de mettre sous le tapis l'affaire, n'ait plus peur de gérer cette affaire de front et de bien la gérer. Donc c'est aussi pour ça que la commission d'enquête intervient avec pas mal d'outils qui peuvent aider les producteurs à gérer ces situations, par exemple les assurances. Parce que quand un tournage s'arrête, ça coûte très cher, donc forcément, il y a beaucoup d'argent en jeu qui participe parfois, malheureusement, à la, vous le disiez, au fait de, à l'omerta, et même au fait que certaines victimes n'osent pas parler. Donc les producteurs sont très concernés, les réalisateurs et les réalisatrices aussi, parce que c'est souvent le film aussi l'œuvre collective qui est mise en danger par ce genre de comportement. Et donc tout le monde a évidemment intérêt à ce que cela cesse pour le bien-être de toutes les équipes, mais aussi pour parvenir à des ambitions artistiques qui sont quand même l'ADN du cinéma français.
Marie-Aimée Coppler.
Oui, il y a donc 86 propositions parlementaires qui ont été faites. Est-ce que vous les avez lues déjà à l'ARP?
Bien sûr.
Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que certaines de ces propositions vous ont marqué?
Il y a énormément de propositions qui, et c'est ça aussi qui est intéressant, qui ne concerne pas que le cinéma, mais tout le secteur de la culture. Donc il y a évidemment beaucoup d'enrichissement entre nos différents secteurs. Il y a pas mal de propositions qui nous ont intéressées, évidemment, notamment la réflexion autour des référents, de la cellule d'écoute pour les victimes.
Qu'est-ce que c'est que cette cellule d'écoute? La cellule d'écoute audience, on entend parler dans le reportage, mais en quoi ça consiste en fait?
Aujourd'hui, c'est une cellule d'écoute qui existe depuis 2020, qui permet de recueillir les signalements de la part de victimes de violences qui sont sexistes et sexuelles, dans le milieu du cinéma, mais aussi du spectacle vivant, de l'audiovisuel. Ils apportent un soutien psychologique, en tout cas ils orientent vers un soutien psychologique, ils peuvent aussi orienter vers une aide juridique. Et c'est une cellule qui est très importante parce qu'elle a reçu déjà beaucoup de signalements et qu'a priori elle va continuer à en recevoir, notamment si la parole continue de se libérer. Et l'idée, c'est de renforcer cette cellule, de lui donner déjà plus de visibilité pour que tout le monde sache qu'elle existe et puisse s'y référer, mais aussi la renforcer. Et on salue les mesures annoncées par la ministre de la Culture qui voulait augmenter l'accompagnement déjà à la rédaction d'une plainte et aussi mettre en place une aide forfaitaire pour une aide juridique, tout simplement pour pouvoir déposer plainte et parfois confronter son agresseur.
Cette cellule, elle est gérée par qui?
Elle est gérée par Audience.
Par Audience. D'accord, qui est? Enfin, je ne connais pas Audience.
Qui est un organisme de...
Absolument. C'est pas ça, c'est ça, c'est une mutuelle, d'accord. On parle également de nouveaux postes hein, dans le cinéma, comme les coordinateurs d'intimité. Il s'agit de quoi exactement?
Alors en effet, le coordinateur d'intimité, c'est un métier qui est très récent, qui est né aux États-Unis. Et son rôle, c'est d'accompagner la préparation, le tournage et aussi le montage de scènes d'intimité, qui sont donc des scènes de nudité, par exemple d'actes sexuels simulés, de violences sexuelles, donc des scènes qui sont compliqué à jouer pour les comédiens et comédiennes, qui sont aussi compliqués pour l'équipe technique qui les filme, et même pour la réalisation. Donc ils ont ce rôle clé de pouvoir faire en sorte que ces scènes soient à la fois sûres et propices à l'ambition artistique de toute l'équipe.
Est-ce que ça démarre dès le casting, ces scènes-là, quand on sait qu'il y a dans un scénario ce genre de scène à tourner? Est-ce que, parce qu'on a souvent entendu parler de réalisateurs qui poussaient loin le casting et qui demandaient déjà à ces actrices de se dénuder, de simuler.
En effet, ça peut arriver aujourd'hui dès le casting. Il y a d'ailleurs une forte volonté d'encadrement de ce genre de casting pour ne pas forcément faire les scènes nues. Enfin, en tout cas, il y a une grande marge de progression autour du casting de manière générale. Et ce qui est intéressant avec le rôle de coordinateur d'intimité, qui est donc un nouveau métier, c'est qu'il va tendre à se développer de par le fait qu'il y a une demande de plus en plus importante, en tout cas une prise de conscience de sa nécessité. Et donc aujourd'hui, il va y avoir de plus en plus de personnes formées. Parce qu'à ce jour, il y a 6 personnes en France qui sont formées pour ce métier. Elles se sont formées à l'étranger. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une formation qui va être créée en France dès la rentrée prochaine pour augmenter le nombre de personnes formées à cette coordination d'intimité et aller vers une plus grande systématisation du recours à cette personne.
Alors, on entend aussi dans le reportage que et vous en avez parlé, que les référents à violences sexistes et sexuelles sont payés 30 euros brut par semaine, autrement dit, on va dire peanuts. Et dans le rapport parlementaire, ces référents devraient en plus peut-être écrire, enfin, c'est souhaité en tout cas, un rapport à chaque fin de tournage faisant état de la durée du déroulement du tournage. Est-ce que c'est réaliste que ces personnes, s'il peut payer ses référents, s'investissent tout à fait dans leur travail?
Alors déjà, la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'en effet, les référents ont un rôle essentiel aujourd'hui sur les tournages et sur la fabrication des films. Et que, comme ça a pu être dit dans le reportage, malheureusement, le dénigrement n'a pas sa place parce que c'est des rôles qui sont absolument essentiels, ne serait-ce que pour la prévention, déjà pour qu'aucun quart de violence n'existe sur tout au long de la fabrication, mais aussi évidemment pour recueillir le signalement si c'est le cas. Donc c'est important de promouvoir ce rôle, évidemment de mieux le former et donc de mieux le rémunérer, surtout s'il y a, et ça semble tout à fait pertinent, davantage de missions qui lui sont confiées pour assurer le bon suivi de ces signalements.
C'est une position inconfortable, référent. Vous le disiez, vous l'avez évoqué un tout petit peu tout à l'heure en disant il est un peu entre le marteau et l'enclume.
C'est une position qui peut en effet être inconfortable du fait que ce sont des personnes de l'équipe. Donc, selon la position du référent, son métier, il peut avoir des difficultés à s'adresser au producteur et en tout cas être entendu pour véritablement faire remonter le signalement puisque lui-même est payé par le producteur. Donc, il y a une sorte de dépendance mécanique du fait de son salariat. Il y a des pistes qui sont évoquées par le rapport de la commission d'enquête, par exemple d'avoir aussi un référent extérieur. Il y a l'idée aussi d'avoir plusieurs référents, évidemment, pour que déjà une personne qui ressent le besoin de signaler un fait de violence puisse choisir la personne à qui elle le fait, que ce soit un homme, une femme, selon les métiers techniques, on peut se sentir plus ou moins proche de la personne à qui le faire, puisque c'est quand même un acte fort qui est toujours difficile que de rapporter ce genre de situation. Donc évidemment, son rôle est clé et sa valorisation l'est tout autant.
Marie-Aimée, une question?
Oui, on a entendu dans les premiers témoignages du reportage que la présence des femmes sur un tournage semble être une garantie de sécurité. Mais aujourd'hui, on remarque encore une sous-représentation des femmes à certains postes, notamment dans la réalisation. Alors depuis 2019, il y a un bonus parité instauré par le CNC pour aider notamment les films. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Tout à fait, donc c'est un bonus qui a été mis en place par le CNC pour bonifier l'aide que le CNC apporte à certains films à partir du moment où ils ont un certain nombre de femmes qui occupent des postes clés, par exemple la gérante de la société de production, la réalisatrice, des chefs de poste, par exemple direction de la photographie, etc. Donc c'est une incitation à la parité. La question c'est est-ce que ce bonus aujourd'hui remplit son office quand on voit que on dépasse le plafond des 30% de femmes réalisatrices depuis 10 ans, il en est fait intéressant de s'interroger sur son efficacité. Et donc je vois que le rapport de la commission d'enquête suggère une inversion, c'est-à-dire plutôt que ce soit une bonification, ce serait un malus. Donc évidemment, ça fera l'objet de discussions au sein du secteur pour voir si c'est la bonne solution. Mais c'est important de souligner que la parité est réduite de manière quand même statistique les violences et donc est un objectif à poursuivre de manière collective au sein du secteur.
Est-ce que le fait qu'il y ait peu de femmes dans le milieu du cinéma, en tout cas à des postes de réalisation par exemple, est-ce qu'elles se sont auto-censurées, vous pensez ? On l'entend un peu dans le reportage en disant « moi je pensais que j'étais nulle, on me remettait à ma place, on faisait en sorte de... voilà, on me renvoyait tellement à... t'as rien à faire ici que finalement, en tout cas il y aura peut-être une génération, il faudra attendre plusieurs générations pour retrouver confiance ».
J'espère qu'on n'aura pas besoin d'attendre plusieurs générations pour retrouver confiance.
Peut-être pas plusieurs, mais...
Mais oui, c'est certain que... Bon, après, on décrit quelque chose qui va bien au-delà du cinéma, qui est l'autocensure des femmes, leur humiliation parfois, le fait qu'on ne leur fasse pas confiance.
Légitime.
Par exemple, c'est intéressant de voir que les femmes réalisatrices réalisent des films qui ont des budgets beaucoup plus petits. C'est très rare d'avoir des femmes qui réalisent des films avec des gros budgets, on ne leur fait pas confiance, manifestement.
C'est vous, par l'ARP, qui ne leur faites pas confiance, alors ?
Alors, l'ARP, nous, on représente des cinéastes et on aimerait que tout le monde nous fasse confiance, évidemment, dans la réalisation de nos œuvres, mais ça se reflète dans les budgets des films et évidemment, c'est quelque chose qu'il faut qu'on surveille de près. Quand on fait ce travail de mesure, d'analyse, le budget des films réalisés par des femmes est un critère essentiel.
Marie-Aimée.
Oui, on parlait justement de la question de la place des hommes, en fait, sur ce sujet. Il y a un exemple assez frappant, c'est que notamment au sein de l'ARP, j'avais invité le délégué général ainsi que le directeur qui sont des hommes. Et finalement, la parole, c'est vous aujourd'hui qui prenez la parole. Alors,
c'est bien. Hein,
c'est très bien, on en est très, très heureuse. Mais c'est vrai que au cours du reportage, on entend beaucoup d'hommes. Est-ce que ça reflète quelque chose ?
Femmes, au contraire.
Beaucoup de femmes, pardon, voilà. Oui, beaucoup de femmes.
Peu d'hommes.
Est-ce que le fait que les hommes sont moins à l'aise sur ces sujets, comment on peut l'expliquer ?
Alors aujourd'hui déjà, c'est un cinéaste à qui on a proposé de venir et qui malheureusement n'était pas disponible. Et donc je vous rassure qu'ils sont très mobilisés, on a en effet encore beaucoup de cinéastes hommes à l'échelle de notre organisation, mais ça tend à s'inverser. En tout cas, on vise aussi la parité au sein de nos membres. Et c'est des sujets dont on discute en permanence. Donc voilà, je pense pas que ce soit ma représentation qui remette en question ça, quand on voit en tout cas qu'il y a de plus en plus d'hommes qui sont sensibilisés à ces sujets, qui sont sensibles, voire qui s'engagent et qui militent à nos côtés. Donc je ne décrirai pas de tendance, ou en tout cas je ne voudrais pas l'inscrire dans le marbre, parce que je pense que ça va de plus en plus être le cas. Et même s'il y a en effet à l'échelle du secteur, et là je ne parle pas forcément que des cinéastes, mais à l'échelle du secteur, un degré de sensibilisation au sujet qui est évidemment variable selon les personnes, et ça c'est le cas encore une fois dans toute notre société. Il y a un ensemble de dispositifs qui ont été mis en place, notamment par le CNC, et on tient à saluer vraiment activement leur travail, pour qu'on converge tous, comme le disait Leslie Thomas, vers non seulement une communion d'intérêts, mais une communion de prise de conscience, de réflexes, de connaissance des notions de ce que c'est que le sexisme, de ce que c'est que le harcèlement sexuel, de comment on lutte contre, de comment on réagit face à ça, etc. Donc je suis pas du tout désespérée à l'idée que ce soit, parce qu'en fait c'est déjà le cas, un mouvement massif de notre secteur qui englobe absolument tous ces acteurs. Et pour ceux qui ne prennent pas la vague, a priori, ce sera de plus en plus compliqué aussi de travailler du fait de cette prise de conscience générale.
Joyce Dardanne, merci. Merci d'avoir été avec nous dans ce studio. Je rappelle que vous êtes déléguée générale adjointe de l'ARP, la Société civile des auteurs, réalisateurs, producteurs. Merci d'être venue jusqu'à nous. Merci Marie-Aimée pour votre reportage, Marie-Aimée Koplort. Et puis merci aussi à Annie Brault, à la réalisation, à la technique ce soir, Jean-Guilain Meige, avec l'aide aussi précieuse de la documentation de Radio France. Vous pouvez tout à fait retrouver cette émission sur franceculture.fr ou la podcaster également sur l'application Radio France. Yeah.